votre service tous les jours de 9h à 11h.
Et on accueille Jasmine Purnaud. Bonjour Jasmine.
Mais bonjour Patrick.
Comment ça va?
Ça va bien, merci.
Alors vous êtes logopédiste et responsable du CDTEA de Sion. Et vous venez nous voir dans ce studio une fois par mois pour parler du développement de l'enfant. Et le thème du jour, eh bien ça va être quoi?
Eh bien ça va être un peu une suite. On a parlé des cadeaux pour Noël. Puis après on a parlé de qu'est-ce qu'on a reçu après. On a peut-être reçu des cadeaux auxquels il faut mettre des règles. Puis maintenant c'est comment on va mettre les règles en place et puis comment se faire obéir. Et si on n'arrive pas, comment faire? Enfin, il y a beaucoup de questionnements autour de l'éducation et souvent un épuisement des parents en disant le soir, mais je suis fatiguée, j'en peux plus. Et ils laissent un petit peu aller les règles, soit ils n'en mettent plus parce que c'est plus agréable et c'est plus facile. Par contre, après, de rectifier le tir, ça sera être plus difficile. Mm-hmm. Donc voilà, c'est un petit peu autour de ces questionnements qu'on peut en parler aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire éduquer?
Alors, éduquer, ça vient du latin, éducare, ça veut dire sortir de, aider l'enfant à être élevé pour partir, sortir du nid. Donc, c'est vrai que c'est donner tout ce qu'il faut comme sécurité pour que l'enfant puisse après avoir une autonomie de plus en plus grande pour devenir adulte.
Et c'est pas évident.
Ah, c'est pas évident, non. Et puis souvent, on se demande si, est-ce qu'on se pose la question en tant que parent de quand on a un enfant qui arrive, ça, il faut savoir que ça chamboule tout le couple, ça chamboule la vie sociale, ça donne des nouvelles règles et rituels autour du couple, de l'arrivée de l'enfant. Et est-ce que ces questionnements-là a été dit et dans le couple, autour de l'éducation, comment on va faire? Et souvent, c'est peu évoqué. Il n'y a pas l'occasion d'ailleurs de l'évoquer. Il y a peu de préparation aussi. On n'est pas amené à faire des préparations, ni un passeport par an. Ça existe peu.
Ouais.
Ça existe, mais c'est peu évoqué. Et à ce moment-là, on se prend un peu dans la figure. Mais qu'est-ce que c'est que ça, cet enfant qui crie tout le temps, qui pleure, comment on fait? Et parfois, dans le couple, on n'a pas les mêmes réponses.
Mm-hmm.
Et ça peut créer des difficultés ou des conflits, voire des plus grandes difficultés qui amènent après à des questionnements sur le couple lui-même.
Et quel genre de questions se posent les parents?
Alors les questions c'est je n'en peux plus, je suis fatiguée, comment je vais me faire obéir, qu'est-ce que je dois mettre en place, j'ai tout essayé et ça ne fonctionne pas, mais ça veut dire quoi tout? Et ça veut dire sur combien de temps? Parce que c'est vrai qu'on peut essayer de mettre une règle en place, mais si on l'essaye 3 jours, ça ne fonctionne pas, en effet. C'est très difficile. C'est pas, on doit donner une sécurité, mais on doit donner des règles depuis tout petit. Et on ne donne pas les mêmes règles à un enfant qui a 1 an, 3, 8 ou 15, évidemment. En espérant qu'à 15, ils aient quand même compris qu'il y avait des règles dans la société.
Mmh. Ce qui est important, c'est de répondre aux besoins de l'enfant. Il n'y a pas de méthode miracle qui existe.
Non, j'ai déjà dit une fois, c'est qu'il n'y a pas un béti-bossi de l'éducation, c'est bien dommage. Et quelque part, c'est peut-être un bienfait, parce que ça fait penser... Il y a Guy Oslos, qui est un pédopsychiatre belge, qui disait qu'il a écrit un livre sur la compétence des familles. C'était de remettre au centre la compétence de chaque parent. Chaque parent est compétent d'être parent. Et donc, il doit s'informer, et non des méthodes, mais par contre, des besoins de son enfant. Et chaque enfant étant différent, dans une fratrie de 3, 4, voire 2, ben, les deux n'ont peut-être pas les mêmes besoins en éducation. Par contre, les mêmes valeurs vont être transmises, ce qui n'est pas la même chose. Donc, des valeurs de respect. Par contre, chaque enfant n'a pas les mêmes besoins. Certains auront besoin d'être plus serrés, d'autres, on donne une règle et il va la respecter tout de suite. Et d'autres vont commencer à s'y opposer d'une manière très importante. Mm-hmm. Et donc, c'est comment faire quand l'enfant s'y oppose.
Et
c'est plutôt ça.
Des besoins aussi différents selon l'âge de l'enfant.
Oh, bien sûr, selon l'âge, oui.
Mm-hmm. Le but de l'éducation, Jasmine, qu'est-ce que c'est?
Ben, c'est guider vers l'autonomie et la responsabilité de responsabilisation et d'être autonome dans une société.
Mm-hmm.
Donc, j'en ai déjà parlé aussi, la famille est une... pardon. La famille est une petite mini-société dans laquelle on va mettre des règles, où il y a une grande sécurité, une sécurité qui est importante au niveau affectif. Donc quand l'enfant se sent sécurisé et aimé, eh bien il va pouvoir respecter la règle qui va peut-être être entrée après à l'école. Là, il aura déjà, dès 4 ans, eu l'habitude d'avoir quelques règles importantes et auxquelles il aurait dû s'y atteler. Par contre, à l'école, après, il en a d'autres. Et puis après, dans la société, il en a. Donc, c'est vraiment le conduire petit à petit d'accepter des règles de société. Parce que sans règles dans la société, nous, on ne pourrait pas non plus vivre dans une anarchie totale.
Et pour faire respecter ces règles, il faut de l'autorité. Hein.
Voilà.
On va en parler dans quelques minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer par WhatsApp au 079 327 1010.
Rhône FM.
Les 9h-11h.
Pour mieux vous aider.
Émission sur le développement de l'enfant avec Jasmine Purnaud, logopédiste responsable du CDTEA de Sion. On a reçu plusieurs questions des auditeurs, Jasmine, concernant donc les règles notamment. Cette question déjà d'une auditrice, vous disiez qu'à 15 ans, un jeune devrait avoir compris qu'il y a des règles. Comment s'y prendre quand ce n'est pas le cas? Vers qui se tourner, Jasmine?
Oui, alors en effet, à 15 ans... C'est à espérer quand même qu'il y ait des règles qui soient déjà connues, parce que cet enfant, ces jeunes, est allé à l'école. Mais il y a, à 15 ans aussi, l'adolescence qui met quand même à mal assez les parents, parce qu'il y a une grande opposition. Et quand il y a une urgence, ce que j'entends, on peut répondre, il y a Éduquer votre enfant chez Caritas, où on parle pour débloquer une situation où il y a un téléphone. Donc ça, c'est une réponse... qui est possible, et je peux vous donner le numéro au conseil éducatif qui est le 027 323 35 02. Donc là, il y a quelqu'un qui répond au téléphone, et puis après qui pourrait donner des rendez-vous. Ça, c'est pour répondre à une urgence. Mais par contre, à 15 ans, il est vrai que l'opposition, elle est présente dans beaucoup de familles, et le jeune s'oppose à ses parents, doit s'opposer aussi à ses parents, mais il faut quand même qu'on puisse respecter les heures de sortie, les heures de rentrée, et enfin donner toujours le cadre, à voir s'il avait déjà, ce jeune, un cadre qu'il respectait avant. Si c'est la crise d'adolescence, c'est autre chose que s'il n'a jamais respecté des règles avant. Donc là, il y a une différence.
Très bien. On a une deuxième question. Comment se faire comprendre par sa partenaire si l'on n'est pas sur la même longueur d'onde pour l'éducation, si elle ou il refuse de remettre en question sa méthode? Un des deux va finir par abdiquer à chaque fois.
Mais en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure. On parle peu de l'éducation avant que l'enfant n'arrive. Et quand il arrive, là, on se rend compte qu'on n'a pas tout à fait les mêmes, on n'est pas sur la même longueur ni les mêmes critères. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir quels seraient les critères communs, sur lesquels on est d'accord. Donc, déjà de faire une petite liste de ce qui est sur lequel on est d'accord, de comment réagir négocier dans le couple sans l'enfant. Évidemment, on négocie pas avec un enfant. Dans le couple, qu'est-ce qui pourrait être envisageable d'être d'accord l'un ou l'autre? Et ce qu'un psychiatre pourrait aussi proposer, qui est Neuberger, il propose qu'une semaine on répond à la règle des parents et l'autre semaine l'autre. Donc on alterne. C'est pas grave d'avoir deux manières différentes tant qu'on arrive à se faire obéir ou qu'il y ait une autorité mise en place. C'est plus complexe évidemment, mais de dire il y a les règles de papa une semaine, les règles de maman une autre, et ça pourrait peut-être... garder un peu le couple ensemble. Pareil, quand il y a des couples qui sont séparés ou des règles différentes chez les grands-parents, on respecte les différents lieux. Et l'enfant se retrouve. L'enfant s'ajuste assez. Par contre, il doit avoir une référence claire d'une autorité à une personne ou à l'autre.
Et puis, on a une dernière question d'une maman de 4 enfants. Alors, elle n'a jamais eu de problème avec les 3 premiers. Mais c'est plus compliqué avec le dernier qui a 17 mois, qui fait des grosses crises avec l'autorité. Elle demande du coup quels sont les moyens à disposition pour l'aider à lui faire comprendre que c'est pour son bien.
Alors c'est vrai que des grandes règles qui sont non négociables, elles portent autour de la sécurité de l'enfant. C'est vrai que si mettre l'enfant dans un fauteuil, dans la voiture, c'est compliqué, c'est une sécurité. C'est pas négociable, et même à 17 mois, il n'y a pas le choix. On ne peut pas faire un choix, est-ce qu'il est possible de le mettre ou non, on n'a pas le choix. Par contre, aller vérifier quand même chez le pédiatre si l'enfant n'a pas quelque chose de difficile auquel il ne peut pas répondre au niveau, est-ce qu'il est trop serré, est-ce que au niveau du tissu ou de la ceinture, il y a quelque chose qui le gêne aussi physiquement. Parce que si j'entends qu'il n'y a pas eu de problème avec les autres, ici c'est peut-être pas une question de sécurité ou d'autorité, mais c'est peut-être une question que lui physiquement ne supporte pas, des liens très, très serrés autour de lui, peut-être. Donc ça, c'est une possibilité, c'est de voir le pédiatre pour aller voir si l'enfant va bien et s'il est dans des bonnes conditions d'accepter ou de vivre autour d'être enfermé. Et peu importe, je ne sais pas quelle est la nature des crises aussi, parce que c'est peut-être d'autres exemples, là il y avait l'exemple de la sécurité, mais c'est de dire que ce n'est pas négociable. Et si la crise est là, on ne parle pas à l'enfant. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de « oui, mais je t'explique, c'est pour ton bien ». Ça n'est surtout pas à 17 mois. Ça veut dire que c'est comme ça, on est ferme, sans être malveillant aussi. Voilà.
Merci beaucoup, Jasmine, d'avoir répondu à ces questions d'auditeurs. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, 079 327 1010. On continue de parler de ce thème dans quelques minutes. À tout de suite.
Rhône FM,
les 9h-11h,
pour être au courant de tout.
On parle du développement de l'enfant avec Jasmine Purnaud, logopédiste et responsable du CDTEA de Sion, et on est sur le thème de l'autorité. Alors Jasmine, c'est quoi une autorité ?
Oh là là, c'est un grand mot. Alors, l'autorité, c'est une capacité d'obtenir un certain comportement de la part de ceux vis-à-vis dont on a une responsabilité sans recourir à la contrainte physique ou morale. Ça, c'est une définition d'Anna Arendt. En effet, la contrainte physique et morale ne va pas aider l'enfant, va sans doute le stopper parce qu'il va avoir peur, mais ce n'est pas dans la peur qu'on peut être respecté. Donc c'est vrai que pour une autorité compétente, il faut qu'on soit juste, qu'on soit non humiliant et qu'on soit toujours protecteur. Ça, c'est vraiment très important. L'autorité efficace, elle peut être aussi se positionner clairement en tant que personne, donc dire « je te demande de » et pas « on ». Ce n'est pas quelque chose de flou. On doit toujours avoir une... sanctionner, on ne doit pas sanctionner ou pas, on doit dire être clair dans ce qu'on donne comme conséquence à un acte. C'est pas, moi, j'aime pas le mot punition, j'aime pas le mot sanction. Or, ça existe dans la vie, hein, c'est vrai que... Mais on a quand même toujours une conséquence à ce qu'on a fait. Une conséquence, c'est d'avoir une amende pour nous, mais une conséquence de l'enfant. On pourrait très bien discuter avec l'enfant en disant, quand tu fais ça, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais réparer ? Comment tu pourrais réparer cet acte que tu n'as pas fait ? Ou, alors, c'est vrai que de mettre dans la chambre un petit moment, de le mettre à l'écart, de mettre un enfant à l'écart, de la société dans laquelle il est, ça veut dire l'écarter un petit peu, ne pas lui parler, mais c'est quelques minutes, c'est pas pendant trois heures non plus, parce que ça, en l'occurrence, ce n'est pas correct. Donc se positionner clairement par rapport à la génération, on est des adultes et eux sont des enfants, c'est important aussi de se dire que on n'est pas des partenaires, on ne négocie pas avec un enfant, sauf, on peut pas négocier, mais les suggérer de donner des suggestions de conséquences. C'est pas... Puis après, on les met en place. Par contre, c'est l'adulte qui les met en place et l'enfant qui doit les réaliser. Donc, une relation trop proche, elle peut engendrer un contrôle qui est insuffisant, et une relation trop distante, elle engendre un soutien qui est insuffisant. Ça veut dire que c'est toujours une question de dosage dans l'autorité. Ça, c'est difficile de fixer des objectifs, que l'enfant sache à quoi il s'attend. Ça, c'est important aussi. C'est pas tout d'un coup... des punitions qui tombent comme ça ou des conséquences qui tombent du ciel, donc ça c'est pas correct non plus, c'est savoir à quoi il va s'attendre et d'être congruent. Donc quand on dit quelque chose, on doit le respecter, donc c'est inutile de dire tu seras privé de ton iPad ou de ton téléphone pendant un mois parce qu'on va pas pouvoir le respecter, et là du coup on n'est plus tout à fait crédible en tant que parent.
Et on se met une balle dans le pied.
Et voilà, en plus.
On a parlé d'autorité compétente, efficace, on parle aussi d'autorité naturelle.
Oui, bien sûr, il y a une autorité naturelle. Souvent, on dit, on va en parler au papa, parce que papa, qu'est-ce qu'il a de naturel ? Il a une voix qui est plus impressionnante, donc peut-être que souvent, il est plus cadrant parfois que la mère, et ça dépend aussi du temps qu'on passe avec l'enfant. Si on passe toute la journée avec un enfant, et le père qui est moins souvent là parfois, hein, c'est encore des caricatures, mais ça existe encore souvent, et là, le père a plus d'autorité que la mère qui, toute la journée, dit les mêmes choses. Ça, c'est une autorité plus naturel, mais c'est pas. Il y a des personnes qui ont plus d'autorité que d'autres et d'autres qui sont plus souples et qui veulent être plus gentils ou qui veulent. C'est pas parce qu'on donne une autorité qu'on est méchant. Souvent les enfants nous disent mais toi t'es vraiment une méchante maman parce que on donne un ordre. Mais bien sûr on donne une sanction, on donne quelque chose qui suit. On n'est pas là pour être non plus. Mais on est là pour être sécurisant et donner une sécurité. Et la sécurité c'est donner une règle. On a des balises, sur les pistes de ski, il y a des balises, on ne peut pas aller ailleurs. Donc, ça donne une sécurité. Donc, voilà, c'est suivre ça. Ce qui est important dans les pistes, c'est d'avoir des grandes règles qui sont non négociables. Mais en avoir que trois dans la famille, ça suffit. Et celles-là, alors, on ne négocie pas. Alors, les grandes règles, elles peuvent être différentes d'une famille à l'autre. C'est pas... Mais ça doit être dans la sécurité. Là, on parlait justement de mettre un enfant dans un fauteuil ou dans une poussette. C'est pour sa sécurité. C'est pas juste pour... on est obligé de faire ça. Donc de lui dire c'est une sécurité, c'est déjà quelque chose d'important. Parfois, ce qui marche aussi, c'est quand on donne une illusion du choix. On donne à l'enfant deux ou trois possibilités. Il a l'impression qu'il choisit, mais en fait, c'est nous qui proposons les trois choix. Donc ça aussi, c'est une astuce.
Petite astuce intéressante.
D'éviter d'argumenter aussi, de négocier. C'est pas nécessaire de dire il y a une règle, on la donne une fois. On peut compter, hein, ça marche aussi, ça, jusqu'à 1, 2, 3, puis après, c'est terminé. Une fois que la règle elle est nommée clairement, d'une manière calme, ça peut aider. C'est structurant. On peut être aussi soutenu par des pictogrammes ou un tableau des règles sur le frigo. On a déjà vu ça dans plusieurs émissions. Hein, voilà. Donc, repère de règles connues de l'enfant avec des conséquences connues qui ne changent pas, c'est sécurisant.
Très bien. Merci, Jasmine. On se retrouve pour une dernière partie dans quelques minutes. On fait une petite pause. Si vous avez des questions, c'est le dernier moment. Hein. Vous pouvez nous les envoyer par WhatsApp au 079 327 1010. À tout de suite.
Rhône FM. 9h-11h.
On retrouve une dernière fois Jasmine Purnaud, logopédiste et responsable du CDTEA de Sion. On parle d'autorité, on parle de règles. Alors, comment faire preuve d'autorité, Jasmine? Est-ce que vous avez des pistes pour bien faire?
Alors, des pistes, c'est plus compliqué. Par contre, il peut y en avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est vrai, il faut d'abord reconnaître que pour chaque parent, ben, c'est pas facile d'être parent. Déjà, de reconnaître que c'est fatigant, que c'est épuisant et qu'on est dans une société où il y a une grande pression sociale. Mmh. Les gens qui regardent comment on fait, les copains qui peuvent vous juger, il y a une pression scolaire, il y a entre eux les enfants qui disent « oui, mais chez l'autre, on peut faire ça, chez moi, on ne peut pas ». Donc il y a beaucoup, beaucoup de pression auxquelles les parents doivent répondre. Et c'est vrai que c'est déjà reconnaître que c'est difficile d'être parent et de poser son autorité, c'est déjà une première chose, je trouve.
On fait du mieux qu'on peut.
Voilà. Et chaque parent fait du mieux qu'il peut et ne fait pas exprès. Parfois, quand on est fatigué ou fâché, on dit des choses parfois qu'on n'aurait pas dû dire, mm-hmm. ou on fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Par exemple, on est énervé et une baffe peut partir. Alors là, l'important, c'est de s'en excuser et ce n'est en tout cas pas un moyen à utiliser comme méthode éducative. Donc, c'est pas des pistes, mais c'est plutôt des non-pistes que j'ai à proposer. C'est que une humiliation et des coups ne sont déjà pas permis parce que les châtiments corporels et l'humiliation sont poursuivis d'office. Il faut savoir que si on utilise un objet ou des gifles à répétition, donc il y a l'effet répétitif, c'est une dénonciation pénale. Ça veut dire ça, c'est grave. Ou nous, quand on le sait, on est obligé de dénoncer. Donc c'est de l'ordre de la maltraitance. Il y a aussi des négligences qui sont importantes à dénoncer. Donc ça, c'est important, et de dire qu'il y a autre chose à mettre en place, bien sûr, mais en tout cas pas de châtiment corporel, même si plusieurs familles nous ont déjà dit « oui, mais moi j'ai eu ça quand j'étais petit, et puis c'est pas pour ça que je m'en suis mal sortie ». Non, alors en effet, c'est peut-être des personnes qui s'en sont bien sorties, mm-hmm. mais qui restent avec une peur du coup, et c'est pas quelque chose d'agréable. Donc on ne travaille pas sur, et on n'éduque pas sur la peur, ça c'est clair.
Alors vous avez parlé des conséquences tout à l'heure.
Ouais, les conséquences, ben, c'est important de prendre du temps pour l'explication d'une conséquence, et la conséquence c'est de dire avec chaque âge, et c'est ça qui est important, c'est qu'à 2 ans, on sait qu'un enfant n'est pas dans un groupe, de 2 à 4 ans, il a quelque chose il est centré sur lui. Mmh. Ça veut dire qu'on va lui mettre des conséquences par rapport à lui-même. Donc une réparation. On peut le mettre un petit peu à l'écart dans la famille ou à l'écart dans sa chambre. Mais c'est important de répondre aussi par rapport à son âge. De 4 à 6 ans, c'est un début de groupe. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de conflits, il y a beaucoup plus de négociations aussi. Il y a des dialogues qui peuvent se mettre en place. Là, il y a plus de langage aussi déjà qui est mis. Donc on peut... Donc c'est une période qui est un petit peu tyrannique aussi, les enfants sont plus tyranniques, et c'est de répondre avec eux et de construire avec eux la conséquence. Mmh. Et puis de 7 à 12, voire plus haut, ben là il y a une coopération, il y a une autonomie, donc là on peut coopérer avec ces jeunes, et puis c'est une période qui est plus de l'apprentissage de la démocratie, donc c'est de mettre en place des règles avec eux. Ça c'est important. L'important aussi de l'autorité, c'est elle est liée à la crédibilité donc de celui qui la porte. Et puis de justifier et de recourir à des arguments annule l'autorité. Donc on a intérêt à préparer les conséquences, les nommer, et puis après les mettre en place. Puis après on négocie plus, on n'a pas de discussion, oui mais, de mettre du temps, et puis voilà, etc. Ça rassure le jeune et les enfants.
Et on évite les punitions du coup?
Et on évite les punitions, oui. Et puis la punition elle ne vient que plus tard. Donc ça, la conséquence qui est une punition, elle n'arrive que si... la règle, elle n'est pas respectée. Ça veut dire que la règle étant connue, il peut aussi la respecter sans arriver à la conséquence qui est la punition, en effet.
On l'a dit, il n'y a pas de livre magique, hein, Jasmine.
Et non, je suis un petit peu navrée. C'est vrai que je suis navrée de ne pas venir aujourd'hui avec peut-être des références, parce que, comme je dis qu'il faut savoir s'ajuster à chaque enfant, une éducation, c'est vrai qu'on peut aller dans des librairies ou à la médiathèque, et on a une multitude de livres autour de l'éducation. Et puis, ça va parler à certains parents une éducation plus qu'une autre. Et oui, on peut s'en référer, mais ce qui est important, c'est de connaître le besoin de chaque enfant et le développement de l'enfant pour pouvoir mieux y répondre. Donc, il y a plusieurs méthodes, mais elles ne sont ni magiques. Et puis, une méthode peut aller à un enfant et puis l'autre, pas du tout. Donc, voilà, c'est surtout de maintenir ses valeurs, de maintenir le cap à l'intérieur du couple aussi. Et comme j'ai dit tout à l'heure aussi, on peut avoir des différentes méthodes dans le couple, mais on doit pouvoir les respecter les deux. Et puis s'ajuster aussi avec l'enfant avec qui on a en face de soi. Et encore une fois, tous les enfants n'ont pas besoin des mêmes règles pour que ça fonctionne. Mmh. Donc on a des règles familiales, puis après, chaque enfant va peut-être répondre d'une manière différente.
Et quand est-ce qu'on doit faire appel à un professionnel ?
Eh bien, quand ça ne va plus du tout. Quand c'est vrai que si toutes les crises sont trop fortes et puis que le parent lui-même ne sait plus s'en sortir et a des comportements qui commencent à lui-même avoir peur de ce qu'il va pouvoir donner, donc c'est de faire appel à des professionnels. Donc il y a Caritas, je vous ai dit tout à l'heure, il y a aussi au CDTEA, on peut répondre à des guidances parentales pour de l'éducation quand il n'y a rien à voir avec l'école. Parce que l'enfant peut très bien se comporter à l'école, respecter les règles scolaires et puis à la maison, c'est un petit peu la catastrophe. Et donc oui, on peut répondre à un soutien parental pour l'éducation.
Merci beaucoup Jasmine.
Je vous en prie.
Bonne journée et on se retrouve dans un mois.
Ah, dans un mois.
Avec plaisir.